Les frères Karamazov, livre 11, chapitre 4, l'hymne et le secret. Il était déjà tard, et les jours sont courts en novembre, quand Alyosha sonna à la porte de la prison. La nuit tombait, mais il savait qu'on le laisserait entrer sans difficulté. Dans notre ville, il en va comme partout. Au début, sans doute, une fois l'instruction terminée, les entrevues de Mitya avec ses parents ou quelques autres personnes étaient entourées de certaines formalités nécessaires. Mais par la suite, on fit exception pour certains visiteurs. Ce fut au point que, parfois, les entrevues avec le prisonnier avaient lieu presque en tête-à-tête. D'ailleurs, ces privilégiés étaient peu nombreux. Grushenka, Alyosha et Rakitin. L'ispravnik Mikhaïl Makarovitch était bien disposé pour la jeune femme. Le bonhomme regrettait d'avoir crié contre elle à Mokroyé. Ensuite, une fois au courant, il avait tout à fait changé d'opinion à son égard. Et chose étrange, bien qu'il fût persuadé de la culpabilité de Mitya, depuis son arrestation, il devenait plus indulgent pour lui. C'était peut-être une bonne nature, mais l'ivresse et le désordre l'ont perdu. Une sorte de pitié avait succédé chez lui à l'horreur du début. Quant à Alyosha, l'ispravnik l'aimait beaucoup et le connaissait depuis longtemps. Rakitine, qui avait pris l'habitude de visiter fréquemment le prisonnier, était très liée avec « les demoiselles de l'ispravnik », comme il les appelait. De plus, il donnait des leçons chez l'inspecteur de la prison, vieillard débonnaire, quoique militaire rigide. Alyosha connaissait bien, et depuis longtemps, cet inspecteur qui aimait à causer avec lui de la sagesse suprême. Le vieillard respectait et même craignait Ivan Fiodorovitch sur tous ses raisonnements, bien que lui-même fût grand philosophe, à sa manière, bien entendu. Mais il éprouvait pour Alyosha une sympathie invincible. Depuis un an, il étudiait les évangiles apocryphes et faisait part à chaque instant de ses impressions à son jeune ami. Autrefois, il allait même le voir au monastère et discuter des heures entières avec lui et les religieux. Bref, si Alyosha arrivait en retard à la prison, il n'avait qu'à passer chez lui et l'affaire s'arrangeait. De plus, le personnel, jusqu'au dernier gardien, était accoutumé à lui. Le factionnaire ne faisait naturellement pas de difficultés, pourvu qu'on eût une autorisation. Quand on demandait Mitya, celui-ci descendait toujours au parloir. En entrant, Alyosha rencontra Rakitine, qui prenait congé de son frère. Tous deux parlaient haut, Mitya, en le reconduisant, riait beaucoup, et l'autre paraissait bougonner. Rakitine, surtout les derniers temps, n'aimait pas à rencontrer Alyosha. Il ne lui parlait guère et le saluait même avec raideur. En le voyant entrer, il fronça les sourcils, détourna les yeux, parut fort occupé à boutonner son pardessus chaud au col de fourrure. Puis il se mit à chercher son parapluie. « Pourvu que je n'oublie rien !» fit-il pour dire quelque chose. « Surtout, n'oublie pas ce qui n'est pas à toi !» dit Mitya en riant. Rakitine prit feu aussitôt. « Recommande cela à tes Karamazov, race d'exploiteurs, mais pas à Rakitine !» s'écria-t-il, tremblant de colère. « Mais qu'est-ce qui te prend? Je plaisantais. Ils sont tous ainsi » dit-il à Alyosha en désignant Rakitine qui sortait rapidement. Il riait, il était gai, et le voilà qui s'emporte. Il ne t'a même pas salué. « Êtes-vous brouillé? Pourquoi viens-tu si tard? Je t'ai attendu toute la journée avec impatience. » « Ça ne fait rien. Nous allons nous rattraper. »« Pourquoi vient-il si souvent te voir? Tu t'es lié avec lui ?»« Pas précisément. C'est un salaud. Il me prend pour un misérable. Surtout, il n'entend pas la plaisanterie. C'est une âme sèche. Il me rappelle les murs de la prison, tels que je les vis en arrivant. Mais il n'est pas bête. Eh bien, Alexeï, je suis perdu maintenant. » Il s'assit sur un banc, indiqua une place auprès de lui à Alyosha. « Oui, c'est demain le jugement. N'as-tu vraiment aucun espoir, frère ?»« De quoi parles-tu ?» fit Mitya, le regard vague. « Ah oui, du jugement. Bagatelle que cela. Parlons de l'essentiel. Oui, on me juge demain, mais ce n'est pas ce qui m'a fait dire que je suis perdu. Je ne crains pas pour ma tête. Seulement ce qu'il y a dedans est perdu. Pourquoi me regardes-tu d'un air désapprobateur ?
De quoi parles-tu, Mitya ?
Des idées, l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique ?
L'éthique ? Dit Alyosha surpris.
Oui, une science, laquelle ?
Il y a en effet une science comme ça, seulement je ne puis pas t'expliquer, je l'avoue.
Rakitine le sait, lui, il est très savant, l'animal, il ne se fera pas moine. Il veut aller à Pétersbourg faire de la critique, mais à tendance morale. Eh bien, il peut se rendre utile, devenir quelqu'un. C'est un ambitieux. Oh, diable, l'éthique! Je suis perdu, Alexeï, homme de Dieu. Je t'aime plus que tous. Mon cœur bat en pensant à toi. Qu'est-ce que c'est que ce Karl Bernard?
Karl Bernard?
Non, pas Karl, Claude Bernard. Un chimiste, n'est-ce pas?
J'ai entendu dire que c'est un savant, je n'en sais pas davantage.
Oh diable, je n'en sais rien non plus. C'est probablement quelque misérable. Ce sont tous des misérables. Mais Rakitine ira loin. Il se faufile partout. C'est un Bernard en son genre. Oh, c'est Bernard, il foisonne.
Mais qu'as-tu donc ?
Il veut écrire un article sur moi et débuter ainsi dans la littérature. Voilà pourquoi il vient me voir. Lui-même me l'a déclaré. Un article à thèse. Il devait tuer, c'est une victime du milieu, etc. Il y aura, dit-il, une teinte de socialisme. Soit, je m'en moque. Il n'aime pas Ivan, il le déteste. Tu ne lui es pas sympathique non plus. Je ne le chasse pas, il a de l'esprit, mais quel orgueil! Je lui disais tout à l'heure, les Karamazov ne sont pas des misérables, ce sont des philosophes, comme tous les vrais Russes. Mais toi, malgré ton savoir, tu n'es pas un philosophe, tu n'es qu'un manant. Il a ri, méchamment, et moi d'ajouter, des opinionibus non est disputandum. Moi aussi je suis classique, conclut Mitya en éclatant de rire.
Mais pourquoi te crois-tu perdu?
Pourquoi je suis perdu? Au fond, si l'on prend l'ensemble, je regrette Dieu, voilà.
Que veux-tu dire?
Figure-toi qu'il y a dans la tête, c'est-à-dire dans le cerveau, des nerfs. Ces nerfs ont des fibres, et dès qu'elles vibrent, tu vois, je regarde quelque chose, comme ça, et elles vibrent, ces fibres. Et aussitôt qu'elles vibrent, il se forme une image, pas tout de suite, mais au bout d'un instant, d'une seconde, et il se forme un moment, non, pas un moment, je radote, mais un objet ou une action. Voilà comment s'effectue la perception. La pensée vient ensuite. Parce que j'ai des fibres, et nullement parce que j'ai une âme et que je suis créée à l'image de Dieu, quelle sottise. Michael m'expliquait ça hier encore. Ça me brûlait. Quelle belle chose que la science, Alyosha. L'homme se transforme, je le comprends. Pourtant, je regrette Dieu.
C'est déjà bien, dit Alyosha.
Que je regrette Dieu? La chimie, frère, la chimie. Mille excuses, votre révérence, écartez-vous un peu, c'est la chimie qui passe.
Il n'aime pas Dieu, Rakitine. Oh non, il ne l'aime pas.
C'est leur point faible à tous, mais ils le cachent, ils mentent.
Eh bien, exposeras-tu ces idées dans tes articles ? Lui ai-je demandé.
Non, on ne me laissera pas faire, reprit-il en riant. Mais alors, que deviendra l'homme, sans Dieu et sans immortalité ? Tout est permis par conséquent, tout est licite.
Ne le savais-tu pas? Tout est permis à un homme d'esprit, il se tire toujours d'affaire. Mais toi, tu as tué, tu t'es fait pincer, et maintenant tu pourris sur la paille.
Voilà ce qu'il me dit, le salaud. Autrefois, des cochons pareils, je les flanquais à la porte. À présent, je les écoute.
D'ailleurs, il dit des choses sensées, et il écrit bien. Il a commencé, il y a 8 jours, à me lire un article. J'ai noté 3 lignes. Attends, les voici.
Mitya tira vivement de sa poche un papier et lut. Pour résoudre cette question, il faut mettre sa personne en opposition avec son activité. Comprends-tu ça ?
Non, je ne comprends pas, dit Alyosha.
Il regardait Mitya et l'écoutait avec curiosité.
Moi non plus, ce n'est pas clair, mais c'est spirituel.
Tous, dit-il, écrivent comme ça maintenant, ça tient au milieu.
Il fait aussi des vers, le coquin. Il a chanté les pieds de la Koklakov.
J'en ai entendu parler, dit Alyosha.
Oui, mais connais-tu les vers ?
Non.
Je les sais, je vais te les lire.
Tu ne sais pas, c'est toute une histoire.
La canaille. Il y a 3 semaines, il a imaginé de me taquiner. Tu t'es fait pincer comme un imbécile pour 3 000 roubles. Moi, je vais en récolter 150 000. J'épouse une veuve et je vais acheter une maison à Pétersbourg. Il me raconta qu'il faisait la cour à la Koklakov. Elle n'avait guère d'esprit dans sa jeunesse, et à 40 ans, il ne lui en restait plus du tout.
« Oui, elle est fort sensible, me dit-il. C'est comme ça que je l'aurai. Je l'épouse, je l'emmène à Pétersbourg, je vais fonder un journal. »
Et l'eau lui venait à la bouche, pas à cause de la Koklakov, bien sûr, mais à cause des 150 000 roubles. Il était sûr de lui. Il venait me voir tous les jours.
« Elle faiblit, me disait-il radieux.
Et voilà qu'on l'a mis à la porte. Père Cotine lui a donné un croc en jambe. Bravo! J'embrasserai volontiers cette dinde pour l'avoir congédiée. » C'est alors qu'il avait fait ses vers. « Pour la première fois, me dit-il, je m'abaisse à écrire des vers pour séduire, donc pour une œuvre utile. En possession de la fortune d'une sotte, je puis me rendre utile à la société. L'utilité publique sert d'excuse à toutes les bassesses de ces gens-là. Et pourtant, prétend-il, j'écris mieux que Pouchkine, car j'ai su exprimer dans des vers badins ma tristesse civique.
Je comprends ce qu'il dit de Pouchkine. Pourquoi s'est-il borné à décrire des pieds s'il avait vraiment du talent?
Comme il était fier de ses vers, l'animal.
Ah, l'amour-propre des poètes. Pour le rétablissement du pied de l'objet aimé, voilà le titre qu'il a imaginé, le folâtre.
Il cause du tourment, ce petit pied charmant. Les docteurs le font souffrir sous prétexte de le guérir.
Ce n'est pas les pieds que je plains, Pouchkine peut les chanter. C'est la tête que je plains, la tête rebelle aux idées. Elle commençait à comprendre quand le pied vint la gêner. Ah, que ce pied guérisse vite, alors la tête comprendra.
C'est un salaud, mais ces vers ont de l'enjouement. Et il y a mêlé vraiment une tristesse civique. Il était furieux de se voir congédié. Il grinçait des dents.
Il s'est déjà vengé, dit Alyosha. Il a écrit un article sur Madame Koklakov.
Et Alyosha lui raconta ce qui avait paru dans le journal Les Bruits.
C'est lui, confirma Mitya en fronçant les sourcils. C'est bien lui. Ces articles, je sais. « Combien d'infamies a-t-on déjà écrites, sur Groucha, par exemple, et sur Katia aussi ?»
Il marcha à travers la chambre d'un air soucieux. « Frère, je ne puis rester longtemps, » dit Alyosha après un silence. « Demain est un jour terrible pour toi. Le jugement de Dieu va s'accomplir, et je m'étonne qu'au lieu de choses sérieuses, tu parles de bagatelles.
« Non, ne t'étonne pas. Dois-je parler de ce chien puant ?»
De l'assassin? Assez causé de lui. Qu'il ne soit plus question de Smerdiakov, ce puant fils d'une puante. Dieu le châtiera, tu verras.
Il s'approcha d'Alyosha, l'embrassa avec émotion, ses yeux étincelaient.
Rakitine ne comprendrait pas cela, mais toi, tu comprendras tout. C'est pourquoi je t'attendais avec impatience. Vois-tu, je voulais depuis longtemps te dire bien des choses dans ces murs dégradés. Mais je taisais l'essentiel, le moment ne me paraissant pas encore venu. J'ai attendu la dernière heure pour m'épancher. Frère, j'ai senti naître en moi, depuis mon arrestation, un nouvel être, un homme nouveau et ressuscité. Il existait en moi, mais jamais il ne se serait révélé sans le coup de foudre. Qu'est-ce que ça peut me faire de piocher pendant 20 ans dans les mines? Ça ne m'effraie pas, mais je crains autre chose maintenant. Que cet homme ressuscité se retire de moi. On peut trouver aussi dans les mines, chez un forçat et un assassin, un cœur d'homme et s'entendre avec lui. Car là-bas aussi on peut aimer, vivre et souffrir. On peut ranimer le cœur engourdi d'un forçat, le soigner, ramener enfin du repère à la lumière une âme grande, régénérée par la souffrance, ressusciter un héros. Il y en a des centaines et nous sommes tous coupables envers eux. Pourquoi ai-je alors rêvé du Petiot à un tel moment? C'était une prophétie. J'irai pour le Petiot, car tous sont coupables envers tous. Tous sont des Petiots. Il y a de grands et de petits enfants. J'irai pour eux. Il faut que quelqu'un se dévoue pour tous. Je n'ai pas tué mon père, mais j'accepte l'expiation. C'est ici, dans ces murs dégradés, que j'ai eu conscience de tout cela. Il y en a beaucoup, des centaines sous terre, le marteau à la main. Oui, nous serons à la chaîne, privés de liberté. Mais dans notre douleur, nous ressusciterons à la joie, sans laquelle l'homme ne peut vivre, ni Dieu exister, car c'est lui qui la donne. C'est là son grand privilège. Seigneur, que l'homme se consume en prière. Comment vivrai-je sous terre sans Dieu? Il ment, Rakitine. Si l'on chasse Dieu de la terre, nous le rencontrerons sous terre. Un forçat ne peut se passer de Dieu, encore moins qu'un homme libre. Et alors nous, les hommes souterrains, nous ferons monter des entrailles de la terre un hymne tragique au Dieu de la joie. Vive Dieu et sa joie divine. Je l'aime. Mitya, en débitant cette tirade bizarre, suffoquait presque. Il était pâle, ses lèvres tremblaient, des larmes lui coulaient des yeux. Non, la vie est pleine, la vie déborde même sous terre. Tu ne peux croire, Alexeï, comme je veux vivre maintenant, à quel point la soif de l'existence s'est emparée de moi, précisément dans ces murs dégradés. Rakitine ne comprend pas cela. Il ne songe qu'à bâtir une maison, à y mettre des locataires. Mais je t'attendais. Qu'est-ce que la souffrance? Je ne la crains pas, fût-elle infinie, alors que jadis je la craignais. Il se peut que je ne réponde rien à l'audience. Avec la force que je sens en moi, je me crois en état de surmonter toutes les souffrances, pourvu que je puisse me dire à chaque instant « Je suis ». Dans les tourments crispés par la torture, je suis. Attaché au pilori, j'existe encore. Je vois le soleil, et si je ne le vois pas, je sais qu'il luit. Et savoir cela, c'est déjà toute la vie. Alyosha, mon chérubin, la philosophie me tue, que le diable l'emporte. Notre frère Ivan...
Quoi, Ivan? Interrompit Alyosha, mais Mitya n'entendit pas.
Vois-tu, autrefois, je n'avais pas tous ces doutes. Je les recélais en moi. C'est justement peut-être parce que des idées inconnues bouillonnaient en moi que je me grisais, me battais, m'emportais. C'était pour les dompter, les écraser. Ivan n'est pas comme Rakitine, il cache ses pensées. C'est un sphinx, il se tait toujours. Mais Dieu me tourmente, je ne pense qu'à cela. Que faire si Dieu n'existe pas, si Rakitine a raison de prétendre que c'est une idée forgée par l'humanité? Dans ce cas, l'homme serait le roi de la terre, de l'univers. Très bien. Seulement, comment sera-t-il vertueux sans Dieu? Je me le demande. En effet, qui l'homme aimera-t-il? À qui chantera-t-il des hymnes de reconnaissance? Rakitine rit. Il dit qu'on peut aimer l'humanité sans Dieu. Ce morveux peut l'affirmer. Moi, je ne puis le comprendre. La vie est facile pour Rakitine. Occupe-toi plutôt, me disait-il aujourd'hui, de l'extension des droits civiques ou d'empêcher la hausse de la viande. De cette façon, tu serviras mieux l'humanité et tu l'aimeras davantage que par toute ta philosophie. À quoi je lui ai répondu, toi-même, ne croyant pas en Dieu, tu hausserais le prix de la viande le cas échéant et tu gagnerais un rouble sur un kopeck. Il s'est fâché. En effet, qu'est-ce que la vertu? Réponds-moi, Alexeï. Je ne me représente pas la vertu comme un chinois. C'est donc une chose relative. L'est-elle, oui ou non? Question insidieuse. Tu ne riras pas si je te dis qu'elle m'a empêché de dormir durant deux nuits. Je m'étonne qu'on puisse vivre sans y penser. Vanité. Pour Ivan, il n'y a pas de Dieu. Il a une idée qui me dépasse, mais il ne la dit pas. Et il doit être franc-maçon. Je l'ai questionné, pas de réponse.
J'aurais voulu boire de l'eau de sa source. » Il se tait. Une fois seulement il a parlé.
Qu'a-t-il dit ?
Je lui demandais. « Alors, tout est permis ?» Il fronça les sourcils. « Fiodor Pavlovitch, notre père, dit-il, était une crapule, mais il raisonnait juste. » Voilà ses paroles. C'est plus net que Rakitine.
« Oui, dit Alyosha avec amertume.
« Quand est-il venu ?»«
Nous y reviendrons. Je ne t'ai presque pas parlé d'Ivan jusqu'à présent. J'ai attendu jusqu'à la fin. » Une fois la pièce terminée et le jugement prononcé, je te raconterai tout. Il y a une chose terrible pour laquelle tu seras mon juge. Mais maintenant, plus un mot là-dessus. Tu parles du jugement de demain. Le croirais-tu ? Je ne sais rien.
Tu as parlé à cet avocat ?
Oui, mais à quoi bon ? Je lui ai tout raconté. Un suave fripon de la capitale, un Bernard. Il ne croit pas un mot de ce que je lui dis. Il pense que je suis coupable, je le vois bien.
Alors pourquoi êtes-vous venu me défendre ? Lui ai-je demandé.
Je me fiche de ces gens-là, et les médecins voudraient me faire passer pour fou. Je ne le permettrai pas. Catherine Ivanovna veut remplir son devoir jusqu'au bout, avec raideur.
Mitya eut un sourire amer.
Elle est cruelle comme une chatte. Elle sait que j'ai dit à Mokroyer qu'elle avait de grandes colères. On le lui a répété. Oui, les dépositions se sont multipliées à l'infini. Grigori maintient ses dires. Il est honnête, mais sot. Il y a beaucoup de gens honnêtes par bêtise. C'est une idée de Rakitine. Grigori m'est hostile. Il vaudrait mieux avoir telle personne pour ennemi que pour ami. Je dis cela à propos de Catherine Ivanovna. J'ai bien peur qu'elle ne parle à l'audience du salut jusqu'à terre qu'elle me fit lorsque je lui prêtai les 4 500 roubles. Elle voudra s'acquitter jusqu'au dernier sou. Je ne veux pas de ces sacrifices. J'en aurai honte à l'audience. Va la trouver, Alyosha. Demande-lui de n'en pas parler. Serait-ce possible ? Tant pis, je le supporterai. Je ne la plains pas. C'est elle qu'il veut. Le voleur n'aura que ce qu'il mérite. Je ferai un discours, Alexeï.
Il eut de nouveau un sourire amer.
Seulement, il y a Croucha. « Seigneur, pourquoi souffre-t-elle tant maintenant ? » s'écria-t-il avec des larmes. « Cela me tue de penser à elle. Elle était là tantôt. »
« Elle m'a tout raconté. Tu lui as fait beaucoup de peine aujourd'hui. »«
Je sais. Quel maudit caractère que le mien. Je lui ai fait une scène de jalousie. J'avais du regret quand elle est partie. Je l'ai embrassée. Je ne lui ai pas demandé pardon. »«
Pourquoi ?»
Mitya se mit à rire gaiement. « Que Dieu te préserve, mon cher, de jamais demander pardon à la femme que tu aimes, surtout à la femme que tu aimes, et quels que soient tes torts envers elle. Car la femme, frère, qui diable sait ce que c'est ? Moi, en tout cas, je les connais, les femmes. Essaie donc de reconnaître tes torts. C'est ma faute, pardon, excuse-moi. Tu essuieras une grêle de reproches. « Jamais un pardon franc, simple. Elle commencera par t'humilier, t'avilir. Elle te reprochera des torts imaginaires, et alors seulement te pardonnera. La meilleure d'entre elles ne te fera pas grâce des plus petites choses. Telle est la férocité de toutes les femmes, sans exception, de ces anges sans lesquels nous ne pourrions vivre. Vois-tu, mon bien cher, je le dis franchement, tout homme convenable doit être sous la pantoufle d'une femme. C'est ma conviction, ou plutôt mon sentiment. L'homme doit être généreux. Cela ne rabaisse pas, même un héros, même César. Mais ne demande jamais pardon, à aucun prix. Rappelle-toi cette maxime. Elle vient de ton frère Mitya, que les femmes ont perdu. Non, je réparerai mes torts envers Grushenka sans lui demander pardon. Je la vénère, Alexeï. Mais elle ne le remarque pas. Je ne l'aime jamais assez à son idée. Elle me fait souffrir avec cet amour. Auparavant, je souffrais de ses détours perfides. Maintenant, nous ne faisons plus qu'une âme, et par elle, je suis devenu un homme. Resterons-nous ensemble ? Sinon, je mourrai de jalousie. J'en rêve déjà chaque jour. Que t'a-t-elle dit de moi ?
Alyosha lui répéta les propos de Grushenka. Mitya écouta attentivement et demeura satisfait. Alors, elle n'est pas fâchée que je sois jaloux. Voilà bien la femme. J'ai moi-même le cœur dur. J'aime cette nature-là, bien que je ne supporte pas la jalousie. Nous en viendrons aux mains, mais je l'aimerai toujours. Est-ce que les forçats peuvent se marier? Je ne puis vivre sans elle. » Mitya marcha dans la chambre, les sourcils froncés. On n'y voyait presque plus. Tout à coup, il parut soucieux. « Alors, elle dit qu'il y a un secret? Une conspiration à trois, contre elle, avec 4 cas ?»« Eh bien non, ce n'est pas cela. Grushenka s'est trompée comme une sotte. Alyosha, chérie, tant pis, je vais te dévoiler notre secret. » Mitya regarda de tous côtés, s'approcha d'Alyosha, se mit à lui parler à voix basse, bien qu'en réalité personne ne pût les entendre. Le vieux gardien sommeillait sur un banc, les soldats de service étaient trop éloignés. « Je vais te révéler notre secret, » dit-il à la hâte. « Je l'aurai fait ensuite, car puis-je prendre une décision sans toi? Tu es tout pour moi. Ivan nous est supérieur, mais tu vaux mieux que lui, toi seul décideras. Peut-être même es-tu supérieur à Ivan. Vois-tu, c'est un cas de conscience, une affaire si importante que je ne puis la résoudre moi-même sans ton conseil. Toutefois, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Il faut attendre le jugement. Tu décideras ensuite de mon sort. Maintenant, contente-toi de m'écouter, mais ne dis rien. Je t'exposerai seulement l'idée en laissant de côté les détails. Mais pas de questions. Ne bouge pas, c'est entendu. Et tes yeux que j'oubliais. J'y lirai ta décision, même si tu ne parles pas. Oh, j'ai peur. Écoute, Alyosha. Ivan me propose de m'enfuir. Je passe sur les détails. Tout est prévu, tout peut s'arranger. Tais-toi. En Amérique, avec Groucha, car je ne puis vivre sans elle. Et si on ne la laisse pas me suivre? Est-ce que les forçats peuvent se marier? Ivan dit que non. Que ferais-je sans Groucha, sous terre, avec mon marteau? Il ne servirait qu'à me fracasser la tête. Mais d'un autre côté, la conscience. Je me dérobe à la souffrance. Je me détourne de la voie de purification qui s'offrait à moi. Ivan dit qu'en Amérique, avec de la bonne volonté, on peut se rendre plus utile que dans les mines. Mais que devient alors notre hymne souterrain? L'Amérique, c'est encore de la vanité. Et il y a aussi, je pense, bien de la malhonnêteté à fuir en Amérique. J'échappe à l'expiation. Voilà pourquoi je te dis, Alyosha, que toi seul peux comprendre cela. Pour les autres, tout ce que je t'ai dit de l'hymne, ce sont des bêtises, du délire. On me traitera de fou ou d'imbécile. Or, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ivan aussi comprend l'hymne, pour sûr, mais il se tait. Il n'y croit pas. Ne parle pas, ne parle pas. Je vois à ton regard que tu as déjà décidé. Épargne-moi. Je ne puis vivre sans Groucha. Attends jusqu'au jugement. » Mitya acheva d'un air égaré. Il tenait Alyosha par les épaules, le fixait de son regard avide, enflammé. « Les forçats peuvent-ils se marier ? » répéta-t-il pour la troisième fois d'une voix suppliante. Alyosha, très ému, écoutait avec une profonde surprise. « Dis-moi, » demanda-t-il, « est-ce qu'Ivan insiste beaucoup ? Qui a eu le premier cette idée ?»« C'est lui ! Il insiste ! Je ne le voyais pas, il est venu tout à coup il y a 8 jours et a commencé par là. Il ne propose pas, il ordonne !» Il ne doute pas de mon obéissance, bien que je lui ai ouvert mon cœur comme à toi et parlé de l'hymne. Il m'a exposé son plan, j'y reviendrai. Il le veut ardemment, et surtout, il m'offre de l'argent. 10 000 roubles pour fuir, 20 000 en Amérique. Il prétend qu'on peut très bien organiser la fuite avec 10 000 roubles. Et il t'a recommandé de ne pas m'en parler? À personne, et surtout pas à toi. Il a peur que tu ne sois comme ma conscience vivante. Ne lui dis pas que je t'ai mis au courant, je t'en prie. Tu as raison. Il est impossible de décider avant la sentence. Après le jugement, tu verras toi-même. Il y aura en toi un homme nouveau qui décidera. Un homme nouveau, ou un Bernard, qui décidera en Bernard. Il me semble que je suis, moi aussi, un vil Bernard, dit Mitya avec un sourire amer. « Est-il possible, frère, que tu n'espères pas te justifier demain ?» Mitya haussa les épaules, secoua la tête négativement. « Alyosha, dit-il soudain, « il est temps que tu partes. Je viens d'entendre l'inspecteur dans la cour. Il va venir ici, nous sommes en retard. C'est du désordre. Embrasse-moi vite. Fais sur moi le signe de la croix pour le calvaire de demain. » Ils s'étreignirent et s'embrassèrent. Ivan lui-même, qui me propose de fuir, croit que j'ai tué. Un triste sourire se dessina sur ses lèvres. « Le lui as-tu demandé ?»« Non, je voulais le lui demander, mais je n'en ai pas eu la force. D'ailleurs, je l'ai compris à son regard. Alors, adieu !» Ils s'embrassèrent encore. Alyosha allait sortir quand Mitya le rappela. « Tiens-toi devant moi, comme ça !» Il prit de nouveau Alyosha par les épaules. Son visage devint fort pâle, ses lèvres se contractèrent, son regard sondait son frère. « Alyosha, dis-moi toute la vérité, comme devant Dieu. Crois-tu que j'ai tué ?»« La vérité entière, ne mens pas !» Alyosha chancela, eut un serrement de cœur. « Assez, que dis-tu » murmura-t-il comme égaré. « Toute la vérité, ne mens pas !» « Je n'ai jamais cru un seul instant que tu sois un assassin !» s'écria d'une voix tremblante Alyosha, qui leva la main comme pour prendre Dieu à témoin. Une expression de bonheur se peignit sur le visage de Mitya. « Merci » dit-il en soupirant, comme après un évanouissement. « Tu m'as régénéré. Le crois-tu ? Jusqu'à présent, je craignais de te le demander. À toi, à toi. Va-t'en maintenant, va-t'en. Tu m'as donné des forces pour demain. Que Dieu te bénisse. Retire-toi. Aime Ivan. » Alyosha sortit tout en larmes. Une pareille méfiance de la part de Mitya, même envers lui, révélait un désespoir qu'il n'eût jamais soupçonné si profond chez son malheureux frère. Une infinie compassion s'empara de lui. Il était navré. « Aime Ivan !» Il se rappela soudain ces dernières paroles de Mitya. Il allait précisément chez Ivan, qu'il voulait voir depuis le matin. Ivan l'inquiétait autant que Mitya, et maintenant plus que jamais, après cette entrevue. Chapitre 5. Ce n'est pas toi. Pour aller chez son frère, il devait passer devant la maison où habitait Catherine Ivanovna. Les fenêtres étaient éclairées. Il s'arrêta, résolu d'entrer. Il n'avait pas vu Catherine depuis plus d'une semaine et pensa qu'Ivan était peut-être chez elle, surtout à la veille d'un tel jour. Dans l'escalier, faiblement éclairé par une lanterne chinoise, il croisa un homme en qui il reconnut son frère. « Ah, ce n'est que toi !» dit sèchement Ivan Fiodorovitch. « Adieu. Tu vas chez elle ?»« Oui. Je ne te le conseille pas. Elle est agitée. Tu la troubleras encore davantage. » « Non, non !» cria une voix en haut de l'escalier. « Alexei Fiodorovitch, vous venez de le voir ?»« Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il me fait dire quelque chose ? Entrez, Alyosha. Et vous aussi, Ivan Fiodorovitch, remontez. Vous entendez ?» La voix de Katia était si impérieuse qu'Ivan, après un instant d'hésitation, se décida à remonter avec Alyosha. Elle écoutait, murmura-t-il à part soi avec agitation. Mais Alyosha l'entendit. « Permettez-moi de garder mon pardessus, » dit Ivan en entrant au salon. « Je ne resterai qu'une minute. »« Asseyez-vous, Alexei Fiodorovitch, » dit Catherine Ivanovna qui resta debout. Elle n'avait guère changé, mais ses yeux sombres brillaient d'une lueur mauvaise. Alyosha se rappela plus tard qu'elle lui avait paru particulièrement belle à cet instant. « Qu'est-ce qu'il me fait dire ?»« Ceci seulement, » dit Alyosha en la regardant en face. « Que vous vous ménagiez et ne parliez pas à l'audience de ce qui... » Il hésita un peu. « S'est passé entre vous lors de votre première rencontre. » « Ah ! Mon salut jusqu'à terre pour le remercier de l'argent !» dit-elle avec un rire amer. « Craint-il pour lui ou pour moi ? Qui veut-il que je ménage ? Lui ou moi ? Parlez, Alexei Fiodorovitch !» Alyosha la regardait avec attention, s'efforçant de la comprendre.
Vous et lui.
C'est cela, dit-elle méchamment, et elle rougit. Vous ne me connaissez pas encore, Alexeï Fodorovitch.
Moi non plus, je ne me connais pas.
Peut-être me détesterez-vous après l'interrogatoire de demain.
Vous déposerez avec loyauté, dit Alyosha.
C'est tout ce qu'il faut.
La femme n'est pas toujours loyale. Il y a une heure, je craignais le contact de ce monstre, comme celui d'un reptile. Seulement, il est toujours pour moi un être humain. Mais est-il un assassin? Est-ce qu'il a tué?
S'écria-t-elle en se tournant vers Ivan. Alyosha comprit aussitôt qu'elle lui avait déjà posé cette question avant son arrivée, pour la centième fois peut-être, et qu'il s'était querellé.
« Je suis allé voir Smerdiakov. C'est toi qui m'as persuadé qu'il est un parricide. Je t'ai cru. »
Ivan eut un rire gêné. Alyosha tressaillit en entendant ce « toi ». Il ne soupçonnait pas de telles relations.
« Eh bien, en voilà assez, » trancha Ivan. « Je m'en vais. À demain. »
Il sortit, se dirigea vers l'escalier. Catherine Ivanovna saisit impérieusement les mains d'Alyosha.
« Suivez-le, renseignez-le, ne le laissez pas seul un instant. Il est fou. Vous ne savez pas qu'il est devenu fou? Il a la fièvre chaude, le médecin me l'a dit. Allez, courez !»
Alyosha se précipita à la suite d'Ivan Fiodorovitch, qui n'avait pas encore fait 50 pas.
« Que veux-tu »
dit-il en se retournant vers Alyosha.
« Elle t'a dit de me suivre, parce que je suis fou. Je sais cela par cœur. »
ajouta-t-il avec irritation.
Elle se trompe, bien sûr. Mais elle a raison de prétendre que tu es malade. Je t'examinais tout à l'heure. Tu as le visage défait, Ivan.
Ivan marchait toujours. Alyosha le suivait.
Sais-tu, Alexeï Fodorovitch, comment on devient fou?
Demanda Ivan d'un ton calme où perçait la curiosité.
Non, je l'ignore. Je pense qu'il y a bien des genres de folie.
Peut-on s'apercevoir soi-même qu'on devient fou?
« Je pense qu'on ne peut pas s'observer en pareil cas, » répondit Alyosha surpris.
Ivan se tut un instant.
« Si tu veux causer avec moi, changeons de conversation, » dit-il tout à coup. « De peur de l'oublier, voici une lettre pour toi, »
dit timidement Alyosha en lui tendant la lettre de Lise. Ils approchaient d'un réverbère, Ivan reconnut l'écriture.
« Ah, c'est ce diablotin !»
Il eut un rire méchant, et, sans la décacheter, la déchira en morceaux qui s'éparpillèrent au vent.
« Ça n'a pas encore 16 ans et ça s'offre déjà, »
dit-il d'un ton méprisant.
« Comment s'offre-t-elle ? » s'exclama Alyosha.
« Parbleu, comme les femmes corrompues !»«
Que dis-tu là, Ivan ? »
protesta Alyosha avec douleur.
« C'est une enfant, tu insultes une enfant, elle aussi est très malade. » Peut-être qu'elle aussi deviendra folle. Je devais te remettre sa lettre. Je voulais au contraire que tu m'expliques pour la sauver.
Je n'ai rien à t'expliquer. Si c'est une enfant, je ne suis pas sa nourrice.
Tais-toi, Alexeï, n'insiste pas. Je ne pense même pas à elle.
Il y eut un nouveau silence.
Elle va prier la Vierge toute la nuit pour savoir ce qu'elle doit faire demain,
reprit-il d'un ton méchant.
« Tu parles de Catherine Ivanovna ?»«
Oui. Paraîtra-t-elle pour sauver Mitya ou pour le perdre ?
Elle priera pour être éclairée. Elle ne sait pas encore, vois-tu, n'ayant pas eu le temps de se préparer. Encore une qui me prend pour une nourrice. Elle veut que je la berce. »«
Catherine Ivanovna t'aime, frère, » fit tristement Alyosha.
« C'est possible, mais à moi, elle ne me plaît pas. »«
Elle souffre. »
« Pourquoi alors lui dire parfois des paroles qui lui donnent de l'espoir ?»
poursuivit timidement Alyosha.
« Je sais que tu l'as fait. Pardonne-moi de te parler ainsi. Je ne puis faire ce qu'il faudrait, rompre et lui parler à cœur ouvert, »
dit Ivan avec emportement.
« Il faut attendre que l'assassin soit jugé. Si je romps avec elle maintenant, elle perdra demain, par vengeance, ce misérable, car elle le hait et elle en a conscience. » Nous sommes en plein mensonge. Tant qu'elle conserve de l'espoir, elle ne perdra pas ce monstre, sachant que je veux le sauver. Ah, quand cette maudite sentence sera-t-elle prononcée ?
Les mots d'assassin et de monstre avait douloureusement impressionné Alyosha. Mais comment pourrait-elle perdre notre Mitya? En quoi sa déposition est-elle à craindre?
Tu ne le sais pas encore.
Elle a entre les mains une lettre de Mitya qui prouve péremptoirement sa culpabilité.
C'est impossible!
S'écria Alyosha.
Comment impossible? Je l'ai lu moi-même. Pareille lettre ne peut exister,
répéta Alyosha avec fougue.
Car ce n'est pas Mitya l'assassin, ce n'est pas lui qui a tué notre père.
Qui donc a tué, d'après vous? Demanda-t-il froidement. Il y avait de l'arrogance dans sa voix.
Tu le sais bien,
dit Alyosha d'un ton pénétrant.
Qui? Cette fable sur cet idiot, cet épileptique de Smerdiakov?
Tu le sais bien, laissa échapper Alyosha à bout de force. Il haletait, tremblait.
Mais qui donc? Qui?
Cria Ivan rageur. Il n'était plus maître de lui.
Je ne sais qu'une chose, dit Alyosha à voix basse. Ce n'est pas toi qui as tué notre père.
Pas toi? Que veux-tu dire?
Ce n'est pas toi qui as tué, pas toi,
répéta avec fermeté Alyosha. Il y eut un silence.
Mais je le sais bien que ce n'est pas moi. Tu as le délire,
dit Ivan, devenu pâle et dévisageant Alyosha avec un sourire grimaçant. Il se trouvait de nouveau près d'un réverbère.
Non, Ivan, tu t'es dit plusieurs fois que c'était toi l'assassin.
Quand l'ai-je dit? J'étais à Moscou.
Quand l'ai-je dit?
Répéta Ivan troublé.
Tu te l'es dit bien des fois quand tu restais seul durant ces deux terribles mois,
répéta doucement Alyosha.
Il semblait parler malgré lui, obéir à un ordre impérieux. Tu t'es accusé, tu as reconnu que l'assassin n'était autre que toi. Mais tu te trompes, ce n'est pas toi, tu m'entends? Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui m'envoie te le dire.
Tous deux se turent durant une minute. Pâles, ils se regardaient dans les yeux. Soudain, Ivan tressaillit, saisit Alyosha par l'épaule.
« Tu étais chez moi ? »
chuchota-t-il les dents serrées.
« Tu étais chez moi, la nuit, quand il est venu ? Avoue-le, tu l'as vu ? » ?»«
De qui parles-tu ? » ?»«
De Mitya ? »
demanda Alyosha qui ne comprenait pas.
« Pas de lui, au diable, le monstre ! »
vociféra Ivan.
« Est-ce que tu sais qu'il vient me voir? Comment tu l'as appris? Parle !»«
Qui, lui? J'ignore de qui tu parles !» dit Alyosha effrayé.
« Non, tu sais, sinon comment est-ce que tu... Tu ne peux pas ne pas savoir !»
Mais il se retint. Il paraissait méditer. Un sourire étrange plissait ses lèvres.
« Frère !» dit Alyosha d'une voix tremblante. « Je t'ai dit cela parce que tu crois à ma parole, je le sais. » Je te l'ai dit pour toute la vie, ce n'est pas toi. Tu entends? Pour toute la vie. Et c'est Dieu qui m'a inspiré. Dusses-tu me haïr désormais?
Mais Ivan était redevenu maître de lui. Alexei Fiodorovitch, dit-il avec un sourire froid,
je n'aime ni les prophètes ni les épileptiques, et encore moins les envoyés de Dieu, vous le savez bien. Dès à présent, je romps avec vous. Et sans doute pour toujours. Je vous prie de me quitter à ce carrefour. Du reste, voici la rue qui mène chez vous. Surtout, gardez-vous de venir chez moi aujourd'hui. Vous entendez?
Il se détourna, s'éloigna d'un pas ferme, sans se retourner.
Frère, lui cria Alyosha, s'il t'arrive quelque chose aujourd'hui, pense à moi.
Ivan ne répondit pas. Alyosha demeura au carrefour, près du réverbère, jusqu'à ce que son frère eût disparu dans l'obscurité. Il reprit alors lentement le chemin de sa demeure. Ni lui, ni Ivan n'avaient voulu habiter la maison solitaire de Fiodor Pavlovitch. Alyosha louait une chambre meublée chez des particuliers. Ivan occupait un appartement spacieux et assez confortable dans l'aile d'une maison appartenant à une dame aisée, veuve d'un fonctionnaire. Il n'avait pour le servir qu'une vieille femme sourde, percluse de rhumatisme, qui se couchait et se levait à 6 heures. Ivan Fiodorovitch était devenu très peu exigeant durant ces 2 mois et aimait beaucoup rester seul. Il faisait lui-même sa chambre et allait rarement dans les autres pièces. Arrivé à la porte cochère et tenant déjà le cordon de la sonnette, il s'arrêta. Il se sentait secoué d'un frisson de colère. Il lâcha le cordon, cracha de dépit et se dirigea brusquement à l'autre bout de la ville, vers une maisonnette affaissée à une demi-lieue de chez lui. C'est là qu'habitait Marie Kondratievna, l'ancienne voisine de Fiodor Pavlovitch, qui venait chez lui chercher de la soupe et à laquelle Smerdiakov chantait des chansons en s'accompagnant de la guitare. Elle avait vendu sa maison et vivait avec sa mère dans une sorte d'isba. Smerdiakov, malade et presque mourant, s'était installé chez elle. C'est là que se rendait maintenant Ivan Fiodorovitch, cédant à une impulsion soudaine, irrésistible. Chapitre 6. Première entrevue avec Smerdiakov. C'était la troisième fois qu'Ivan Fiodorovitch allait causer avec Smerdiakov depuis son retour de Moscou. Il l'avait vu après le drame le premier jour de son arrivée, puis visité deux semaines après. Mais depuis plus d'un mois, il n'était pas retourné chez Smerdiakov et ne savait presque rien de lui. Ivan Fiodorovitch était revenu de Moscou 5 jours seulement après la mort de son père, enterré la veille. En effet, Alyosha, ignorant l'adresse de son frère à Moscou, avait recouru à Catherine Ivanovna, qui télégraphia à ses parentes dans l'idée qu'Ivan Fiodorovitch était allé les voir dès son arrivée. Mais il ne les visita que 4 jours plus tard, et après avoir lu la dépêche, revint en toute hâte dans notre ville. Il causa d'abord avec Alyosha, fut surpris de le voir affirmer l'innocence de Mitya et désigner Smerdiakov comme l'assassin, contrairement à l'opinion générale. Après avoir vu Lispravnik, le procureur, pris connaissance en détail de l'accusation et de l'interrogatoire, il s'étonna de plus en plus et attribua l'opinion d'Alyosha à son extrême affection fraternelle. À ce propos, expliquons une fois pour toutes les sentiments d'Ivan pour son frère Dmitri. Il ne l'aimait décidément pas. La compassion que lui inspirait le malheureux se mêlait à beaucoup de mépris, voire de dégoût. Mitya tout entier lui était antipathique, même physiquement. Quant à l'amour qu'éprouvait Catherine Ivanovna pour ce triste sire, Ivan s'en indignait. Il avait vu Mitya le premier jour de son arrivée, et cette entrevue avait encore fortifié sa conviction. Son frère était alors en proie à une agitation maladive. Il parlait beaucoup, mais, distrait et désorienté, il s'exprimait avec brusquerie, accusait Smerdiakov, s'embrouillait terriblement, insistait sur les 3 000 roubles volés par le défunt. « Cet argent m'appartenait !» affirmait-il. « Si même je l'avais volé, c'eût été juste !» Il ne contestait presque pas les charges qui s'élevaient contre lui. Et s'il discutait les faits en sa faveur, c'était d'une façon confuse, maladroite, comme s'il ne voulait même pas se justifier aux yeux d'Ivan. Au contraire, il se fâchait, dédaignait les accusations, s'échauffait, lançait des injures. Il se moquait du témoignage de Grigori relatif à la porte, assurait que c'était le diable qui l'avait ouverte. Mais il ne pouvait expliquer ce fait d'une façon plausible. Il avait même offensé Ivan lors de cette première entrevue en lui déclarant brusquement que ceux qui soutenaient que tout était permis n'avaient le droit ni de le soupçonner ni de l'interroger. En somme, il s'était montré fort peu aimable pour Ivan. Celui-ci, après son entrevue avec Mitya, se rendit auprès de Smerdiakov. Déjà pendant le trajet en chemin de fer, il avait constamment pensé à Smerdiakov et à leur dernière conversation la veille de son départ. Bien des choses le troublaient, lui semblaient suspectes. Mais dans sa déposition au juge d'instruction, Ivan avait provisoirement gardé le silence là-dessus. Il attendait d'avoir vu Smerdiakov, qui se trouvait alors à l'hôpital. Aux questions qu'il leur posa, Herzenstub et le docteur Varvinsky, médecin de l'hôpital, répondirent catégoriquement que l'épilepsie de Smerdiakov était certifiée. Ils parurent même surpris qu'on leur demandât s'il n'y avait pas eu simulation le jour du drame. Ils lui donnèrent à entendre que c'était une crise extraordinaire qui s'était répétée durant plusieurs jours, mettant en danger la vie du malade. Grâce aux mesures prises, on pouvait affirmer qu'il en réchapperait. Mais peut-être, ajouta le docteur Herzenstube, sa raison restera pour longtemps troublée, sinon pour toujours. Ivan Fiodorovitch, insistant pour savoir s'il avait déjà perdu la raison, on lui répondit que, sans être encore complètement fou, il présentait certaines anomalies. Ivan résolut de s'en rendre compte par lui-même. Il fut aussitôt admis auprès de Smerdiakov, qui se trouvait dans une chambre à part, et couché. Un second lit était occupé par un hydropique qui n'en avait plus que pour un jour ou deux et ne pouvait gêner la conversation. Smerdiakov eut un sourire méfiant et parut même intimidé à la vue d'Ivan Fiodorovitch. Du moins, celui-ci en eut l'impression. Mais cela ne dura qu'un instant, et le reste du temps, Smerdiakov l'étonna presque par son calme. La gravité de son état frappa Ivan dès le premier coup d'œil. Il était très faible, parlait lentement, péniblement, avait beaucoup maigri et jauni. Durant les 20 minutes que dura l'entrevue, il se plaignit sans cesse de maux de tête et de courbatures dans tous les membres. Son visage d'eunuque s'était rapetissé, les cheveux ébouriffés aux tempes. Seule une mèche mince se dressait en guise de toupet. Mais l'œil gauche, clignotant et paraissant faire allusion, rappelait l'ancien Smerdiakov. Ivan se rappela aussitôt la fameuse phrase « Il y a plaisir à causer avec un homme d'esprit ». Il s'assit à ses pieds sur un tabouret. Smerdiakov se remua en geignant, mais garda le silence. Il n'avait pas l'air très curieux. « Peux-tu me parler? Je ne te fatiguerai pas trop. »«
Certainement, » marmotta Smerdiakov d'une voix faible. « Y a-t-il longtemps que vous êtes arrivé ? »
ajouta-t-il avec condescendance, comme pour encourager le visiteur gêné.
« Aujourd'hui seulement, je suis venu pour éclaircir votre gâchis. »
Smerdiakov soupira. « Qu'as-tu à soupirer ? Tu savais donc ? » lança Ivan.
« Comment ne l'aurais-je pas su ? »
dit Smerdiakov après un silence. « C'était clair à l'avance. Mais comment prévoir que ça finirait ainsi ?»«
Pas de détour. Tu as prédit que tu aurais une crise sitôt descendue à la cave. Tu as ouvertement désigné la cave. »«
Vous l'avez dit dans votre déposition ? » demanda Smerdiakov avec flegme.
« Pas encore, mais je le dirai certainement. » « Tu me dois des explications, mon cher, et je ne permettrai pas, crois-le bien, que tu te joues de moi. »«
Pourquoi me jouerais-je de vous, alors que c'est en vous seul que j'espère ? Comment Dieu ?» proféra Smerdiakov sans s'émouvoir.
« D'abord, je sais qu'on ne peut prévoir une crise d'épilepsie. Je me suis renseigné, inutile de ruser. » Comment donc as-tu fait pour me prédire le jour, l'heure et même le lieu? Comment pouvais-tu savoir d'avance que tu aurais une crise précisément dans cette cave?
De toute façon, je devais aller à la cave plusieurs fois par jour, répondit avec lenteur Smerdiakov. C'est ainsi que je suis tombé du grenier il y a un an. Bien sûr, on ne peut prédire le jour et l'heure de la crise, mais on peut toujours avoir un pressentiment.
« Oui, mais tu as prédit le jour et l'heure. »«
En ce qui concerne ma maladie, monsieur, informez-vous plutôt auprès des médecins si elle était naturelle ou feinte. Je n'ai rien à vous dire de plus à ce sujet. »«
Mais la cave, comment as-tu prévu la cave ?»«
Elle vous tourmente, cette cave. Quand j'y suis descendu, j'avais peur, je me défiais. J'avais peur parce que... « Vous partis, et il n'y avait plus personne pour me défendre. Je songeais, je vais avoir une attaque, tomberai-je ou non ?» Et cette appréhension a provoqué le spasme à la gorge. J'ai dégringolé. Tout cela, ainsi que notre conversation la veille à la porte cochère, où je vous faisais part de mes craintes, y compris la cave, je l'ai exposée en détail à monsieur le docteur Herzenstube, et au juge d'instruction, Nicolas Parthenovitch. Ils l'ont consigné au procès-verbal. Le médecin de l'hôpital, M. Varvinsky, a particulièrement expliqué que l'appréhension même avait provoqué la crise, et le fait a été noté. Smerdiakov, comme accablé de lassitude, respira avec peine. « Alors, tu as déjà fait ces déclarations ?» demanda Ivan Fiodorovitch un peu déconcerté. Il voulait l'effrayer en le menaçant de divulguer leur conversation, mais l'autre avait pris les devants. « Qu'ai-je à craindre? Ils doivent connaître toute la vérité !» dit Smerdiakov avec assurance. « Et tu as aussi exactement raconté notre conversation près de la porte cochère ?»« Non, pas exactement. » « As-tu dit aussi que tu sais simuler une crise, comme tu t'en vantais avec moi ?»« Non. »« Dis-moi maintenant pourquoi tu m'envoyais à Tchermachnia. » ?»«
Je craignais de vous voir partir pour Moscou. Tchermachnia est plus près. »«
Tu mens. C'est toi qui m'as engagé à partir. Écartez-vous du péché, disais-tu. »
« C'est uniquement par amitié, par dévouement, parce que je pressentais un malheur et que je voulais vous ménager. Mais ma sécurité passait avant vous. Aussi vous ai-je dit « Écartez-vous du péché » pour vous faire comprendre qu'il arriverait quelque chose et que vous deviez rester pour défendre votre père.
« Il fallait me parler franchement, imbécile !»«
Comment pouvais-je faire ?» La peur me dominait, et vous auriez pu vous fâcher. Je pouvais craindre, en effet, que Dmitri Fiodorovitch fît du scandale et emportât cet argent qu'il considérait comme sa propriété. Mais qui aurait cru que cela finirait par un assassinat? Je pensais qu'il se contenterait de dérober ses 3 000 roubles cachés sous le matelas dans une enveloppe. Mais il a assassiné. Comment deviner, monsieur?
Alors, si tu dis toi-même que c'était impossible... « Comment pouvais-je deviner, moi, et rester? Ce n'est pas clair. »«
Vous pouviez deviner par le fait que je vous envoyais à Tchermachnia, au lieu de Moscou. »«
Mais qu'est-ce que cela prouve ?»
Smerdiakov, qui paraissait très las, se tut de nouveau. « Vous pouviez comprendre que si je vous conseillais d'aller à Tchermachnia, c'est que je désirais vous avoir à proximité, car Moscou est loin. » « Dmitri Fiodorovitch, vous sachant dans les environs, aurait hésité. Vous pouviez au besoin accourir et me défendre, car je vous avais signalé que Grigori Vassilievitch était malade et que je redoutais une crise. Or, en vous expliquant qu'on pouvait, au moyen de signaux, pénétrer chez le défunt, et que Dmitri Fiodorovitch les connaissait grâce à moi, je pensais que vous devineriez vous-même qu'il se livrerait sûrement à des violences, et que loin de partir pour Tchermachnia, vous resteriez.
Il parle sérieusement, songeait Ivan. Bien qu'il anonne, pourquoi Ersenstube prétend qu'il a l'esprit dérangé?
Tu ruses avec moi, canaille, s'exclama-t-il.
Franchement, je croyais à ce moment-là que vous aviez deviné,
répliqua Smerdiakov de l'air le plus ingénu.
Dans ce cas, je serais resté.
Tiens, et moi qui pensais que vous partiez parce que vous aviez peur.
Tu crois donc tous les autres aussi lâches que toi?
Faites excuse, je vous croyais fait comme moi.
Certes, il fallait prévoir. D'ailleurs, je prévoyais une vilenie de ta part.
Mais tu mens de nouveau, s'écria-t-il, frappé par un souvenir.
Tu te rappelles qu'au moment de partir, tu m'as dit... Il y a plaisir à causer avec un homme d'esprit. Tu étais donc content que je parte, puisque tu me complimentais.
Smerdiakov soupira plusieurs fois et parut rougir. J'étais content, dit-il avec effort, mais uniquement parce que vous vous décidiez pour Tchermachnia au lieu de Moscou. C'est toujours plus près, et mes paroles n'étaient pas un compliment, mais un reproche. Vous n'avez pas compris.
Quel reproche ?
Bien que pressentant un malheur, vous abandonniez votre père et refusiez de nous défendre, car on pouvait me soupçonner d'avoir dérobé ces 3 000 roubles.
Que le diable t'emporte ! Un instant, as-tu parlé au juge des signaux, de ses coups ?
J'ai dit tout ce qui en était.
Ivan Fiodorovitch s'étonna de nouveau. Si j'ai pensé alors à quelque chose, c'est à une infamie de ta part. D'ailleurs, je m'y attendais. Dmitri pouvait tuer, mais je le croyais incapable de voler. Pourquoi m'as-tu dit que tu savais simuler des crises ?
Par naïveté. Jamais je n'ai simulé l'épilepsie. C'est seulement pour me vanter, par bêtise. Je vous aimais beaucoup alors, et causais en toute simplicité.
Mon frère t'accuse, il dit que c'est toi qui as tué et volé.
Certes, que lui reste-t-il à dire ? Rétorqua Smerdiakov avec un sourire amer.
Mais qui le croira avec de telles charges ? Grigori Vassilievitch a vu la porte ouverte, c'est concluant.
Enfin, que Dieu lui pardonne. Il essaie de se sauver, et il a peur.
Smerdiakov parut réfléchir, puis il ajouta. C'est toujours la même chose. Il veut rejeter ce crime sur moi. Je l'ai déjà entendu dire. Mais vous aurais-je prévenu que je sais simuler l'épilepsie si je me préparais à tuer votre père ? En méditant ce crime, pouvais-je avoir la sottise de révéler d'avance une telle preuve et au fils de la victime encore ? Est-ce vraisemblable ? En ce moment, personne n'entend notre conversation, sauf la Providence. Mais si vous la communiquiez au procureur et à Nicolas Parthenovitch, cela servirait à ma défense. Car un scélérat ne peut être aussi naïf. C'est le raisonnement que tout le monde se fera.
Écoute, dit Ivan Fiodorovitch en se levant, frappé par ce dernier argument. Je ne te soupçonne pas. Il serait ridicule de t'accuser. Je te remercie même de m'avoir tranquillisé. Je m'en vais. Je reviendrai. Adieu. Rétablis-toi. As-tu besoin de quelque chose ?
Je vous remercie. Marthe Ignatievna ne m'oublie pas, et toujours bonne, me vient en aide quand il le faut. Des gens de bien viennent me voir tous les jours.
Au revoir. Je ne dirai pas que tu sais simuler une crise. Je te conseille aussi de n'en pas parler,
dit Ivan sans savoir pourquoi.
Je comprends. Si vous ne le dites pas, je ne répéterai pas non plus toute notre conversation près de la porte cochère.
Ivan Fiodorovitch sortit. À peine avait-il fait 10 pas dans le corridor qu'il s'avisa que la dernière phrase de Smerdiakov avait quelque chose de blessant. Il voulait déjà rebrousser chemin, mais il haussa les épaules et sortit de l'hôpital. Il se sentait tranquillisé par le fait que le coupable n'était pas Smerdiakov, comme on pouvait s'y attendre, mais son frère Mitya. Il ne voulait pas en chercher la raison, éprouvant de la répugnance à analyser ses sensations. Il avait hâte d'oublier. Dans les jours qui suivirent, il se convainquit définitivement de la culpabilité de Mitya en étudiant plus à fond les charges qui pesaient sur lui. Des gens infimes, tels que Fénia et sa mère, avaient fait des dépositions troublantes. Inutile de parler de Père Cotine, du cabaret, de la boutique des Plotnikov, des témoins de Mokroyer. Les détails surtout étaient accablants. L'histoire des « coups mystérieux » avait frappé le juge et le procureur, presque autant que la déposition de Grigori sur la porte ouverte. Marthe Ignatievna, interrogée par Ivan Fiodorovitch, lui déclara que Smerdiakov avait passé la nuit derrière la cloison, à 3 pas de notre lit, et que bien qu'elle dormît profondément, elle s'était réveillée souvent en l'entendant gémir. Il gémissait tout le temps. En causant avec Erzenstube, Ivan Fiodorovitch lui fit part de ses doutes au sujet de la folie de Smerdiakov, qu'il trouvait seulement faible. Mais le vieillard eut un fin sourire. « Savez-vous, répondit-il, à quoi il s'occupe maintenant ? Il apprend par cœur des mots français écrits en lettres russes dans un cahier. Hé hé !» Les doutes d'Ivan disparurent enfin. Il ne pouvait déjà plus songer à Dmitri sans dégoût. Pourtant, il y avait une chose étrange. La persistance d'Alyosha a affirmé que l'assassin n'était pas Dmitri, mais très probablement Smerdiakov. Ivan avait toujours fait grand cas de l'opinion de son frère, et cela le rendait perplexe. Autre bizarrerie remarquée par Ivan. Alyosha ne parlait jamais le premier de Mitya, se bornant à répondre à ses questions. D'ailleurs, Ivan avait bien autre chose en tête à ce moment. Depuis son retour de Moscou, il était follement amoureux de Catherine Ivanovna. Ce n'est pas ici le lieu de décrire cette nouvelle passion d'Ivan Fiodorovitch, qui influa sur sa vie entière. Cela formerait la matière d'un autre roman que j'écrirai peut-être un jour. Je dois signaler, en tout cas, que lorsqu'il déclara à Alyosha, en sortant de chez Catherine Ivanovna, « Elle ne me plaît pas. » Ainsi que je l'ai raconté plus haut, il se mentait à lui-même. Il l'aimait follement, tout en la haïssant parfois, au point d'être capable de la tuer. Cela tenait à bien des choses. Bouleversée par le drame, elle s'était rejetée vers Ivan Fiodorovitch comme vers un sauveur. Elle était offensée, humiliée dans ses sentiments. Et voilà que reparaissait l'homme qu'il aimait tant auparavant, elle le savait bien, et dont elle avait toujours apprécié l'intelligence et le cœur. Mais la rigide jeune fille ne s'était pas donnée tout entière, malgré l'impétuosité, bien digne des Karamazov, de son amoureux, et la fascination qu'il exerçait sur elle. En même temps, elle se tourmentait sans cesse d'avoir trahi Mitya, et lors de ses fréquentes querelles avec Ivan, elle le lui déclarait franchement. C'est ce qu'en parlant à Alyosha, il avait appelé « mensonge sur mensonge ». Il y avait en effet beaucoup de mensonges dans leur relation, ce qui exaspérait Ivan Fiodorovitch. Mais n'anticipons pas. Bref, pour un temps, il oublia presque Smerdiakov. Pourtant, 15 jours après sa première visite, les mêmes idées bizarres recommencèrent à le tourmenter. Il se demandait souvent pourquoi, la dernière nuit, dans la maison de Fiodor Pavlovitch, avant son départ, il était sorti doucement sur l'escalier, comme un voleur, pour écouter ce que faisait son père au rez-de-chaussée. Par la suite, il s'en était souvenu avec dégoût, avait senti une angoisse soudaine le lendemain matin en approchant de Moscou, et il s'était dit « Je suis un misérable ». Pourquoi cela ? Un jour que, ruminant ses idées pénibles, il se disait qu'elles étaient bien capables de lui faire oublier Catherine Ivanovna, il fit la rencontre d'Alyosha. Il l'arrêta aussitôt et lui demanda « Te souviens-tu de cet après-midi où Dmitri fit irruption et battit notre père ? Je t'ai dit plus tard dans la cour que je me réservais le droit de désirer. Dis-moi, as-tu pensé alors que je souhaitais la mort de notre père ?»« Oui, » fit doucement Alyosha. D'ailleurs, ce n'était pas difficile à deviner, mais n'as-tu pas pensé aussi que je désirais que les reptiles se dévorent entre eux, c'est-à-dire que Dmitri tue notre père au plus vite, et que j'y prêterais même la main ? Alyosha pâlit, regarda en silence son frère dans les yeux. « Parle ! » s'écria Ivan. « Je veux savoir ce que tu as pensé. Il me faut toute la vérité. » Il suffoquait et regardait d'avance Alyosha d'un air méchant. « Pardonne-moi, j'ai pensé cela aussi, » murmura celui-ci sans ajouter de circonstances atténuantes. « Merci, » dit sèchement Ivan qui poursuivit son chemin. Dès lors, Alyosha remarqua que son frère l'évitait et lui témoignait de l'aversion, si bien qu'il cessa ses visites. Aussitôt après cette rencontre, Ivan était retourné voir Smerdiakov.